Bonsoir, comment allez-vous ? Dans les Yvelines, une chienne policière vient d'être mise à la retraite. Elle a 8 ans et a mené à bien 2659 interventions, trouvé des kilos de cocaïne, du cannabis, des amphétamines et 286 000 euros en petites coupures. Parce que non seulement l'argent a une odeur, mais le vrai et le faux n'ont pas la même. Ce qu'il y a de beau dans cette histoire, ce n'est pas seulement la performance, c'est l'histoire justement. Carla a été battue par son premier maître, les voisins ont réagi, la SPA est allée la chercher, puis la police l'a récupérée. En photo dans Le Parisien, elle a de grandes oreilles dressées, un long nez et des longues pattes. Cette information m'a donné envie de vous parler de la petite encyclopédie illustrée des animaux les plus étonnants, éditée chez Rue du Monde. D'abord, c'est très bien illustré. Ensuite, on y apprend que le crocodile peut rester sans manger pendant, vous diriez combien ? 3 ans, oui madame, 3 ans aussi pour l'escargot. Que le castor a les dents oranges, même s'il les lave. Qu'une grenouille peut sauter 14 mètres, respect. Que le lion dort 20 heures par jour, ne dites jamais ça à un adolescent, ça pourrait lui servir d'argument. Que le bouc s'urine sur la tête, et nous on peut même pas se lécher le coude. Bah allez-y, je vous regarde.
Bonjour, je m'appelle Cléo, j'ai 7 ans et je voudrais savoir si les serpents de mer existait vraiment. Merci.
Bonsoir Cléo, serpent de mer, c'est même une expression hein, pour quelque chose qui justement n'existe pas. Alors nous allons voir ça avec Benoît Grison.
Bonsoir Cléo. Ah, souvent les serpents de mer, c'est un mot qu'utilisaient les marins pour parler de quelque chose, un animal qu'ils ne connaissaient pas. Alors, très très fréquemment, c'était le régalec, un superbe poisson qui fait 8 mètres et 300 kilos avec une crête rouge qui ressemble à une sorte de serpent. Voilà. Et puis, de temps en temps, c'était une grande tortue de mer, la plus grande, la tortue lutte. Mais il se peut que derrière ce mot de serpent de mer, il y a aussi des mammifères inconnus, ce qu'on découvre encore de nouvelles baleines. Dans les mers arctiques, on a découvert une nouvelle baleine à bec qui était connue des pêcheurs japonais, qui avait son petit nom depuis des décennies, et les pêcheurs disaient qu'elle est différente et on ne croyait pas les pêcheurs, et on avait tort.
Finalement, vous pensez, Benoît Grison, qu'on va en découvrir encore d'autres, des animaux ?
Dans la mer, oui, à coup sûr. Les fonds marins sont moins connus que la surface de la Lune, moins bien cartographiés que la surface de la Lune, donc il y a de quoi faire.
Donc enfin, pour répondre à Cléo, oui, le serpent de mer existe.
Mais ça n'est jamais un serpent en tant que tel. Ça peut être un très grand poisson, ça peut être un très grand mammifère.
Oui, il ne fait pas partie de la famille des serpents. On l'appelle comme ça parce que c'est un poisson qui est long.
Oui, alors le régalec, c'est ça, c'est un long poisson. On l'appelle poisson ruban, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et 8 mètres, c'est beaucoup.
Régalec.
Régalec.
Et il se pêche, ce régalec, Benoît Grison ?
Pas vraiment, il s'échoue parfois, parce que c'est un poisson des profondeurs. Les pêcheurs les prenaient parfois dans leur filet parce qu'ils accompagnent les bancs de harengs, les migrations des harengs. Mais le plus souvent, il s'échoue. On l'appelle roi des poissons parce qu'il a une sorte de crête rouge qui ressemble à une couronne. C'est un poisson très très rare.
Benoît Grison est docteur en sciences cognitives, biologiste et sociologue des sciences. Il enseigne et il est conseiller sur de nombreux documentaires. Il a écrit chez Delachaux et Niels du Yeti au calmar géant. Vous êtes trop jeunes, mes chéris, pour avoir assisté à la polémique autour des colonnes de Buren.
Bonjour, je m'appelle Pablo et je voudrais savoir comment les colonnes de Buren sont de l'art. Au revoir.
Pablo, peut-être une famille d'artistes. Pablo Pascal Torres est écrivain et également conservateur en chef au musée du Louvre. Les colonnes de Buren, à Paris et ailleurs d'ailleurs. On parle toujours de celles du Palais Royal, mais il y a beaucoup d'œuvres de Buren.
Oui, oui, tout à fait. Et la question de Pablo me plaît beaucoup parce que Pablo, tu dis comment les colonnes de Buren sont-elles de l'art ? Et tu ne dis pas pourquoi les colonnes de Buren sont-elles de l'art ? Parce que ce serait une question un peu fade. Et quand tu dis comment les colonnes de Buren sont-elles de l'art, tu supposes déjà que c'est de l'art, donc c'est très bien. Et évidemment, c'est de l'art, c'est à la fois de la sculpture, je dirais presque de la peinture et de l'architecture. Et c'est quoi les colonnes de Buren ? Alors, c'est amusant parce que on va donner déjà le vrai titre de l'œuvre. Hein, les colonnes de Buren, c'est le titre de l'œuvre qui est né dans la presse lors de la polémique, en fait, qu'il y a eu autour de cette œuvre qu'on avait assimilée très simplement à de l'art officiel de François Mitterrand. Bon, ou de Jacques Lang. C'est un peu vrai, mais il s'agit d'une grande œuvre d'art. Et son titre, c'est « Les deux plateaux ». Les deux plateaux, comme les plateaux d'une balance, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Un qui est plutôt oblique et l'autre qui est absolument parallèle au sol.
On peut expliquer pour ceux qui ne sont pas parisiens, parce que France Inter croit toujours que toute la France tient dans Paris, mais non, il y a quand même...
Non, c'est Paris qui tient dans la France.
Voilà, il y a un monde au-delà du périphérique.
Que ah bon ça,
mais paraît-il que ça recouvre le parking qui est au bout du jardin du Palais Royal.
Voilà, alors autrefois il y avait un parking qui était là et qui a cédé la place à cet ensemble monumental qui s'appelle les Deux Plateaux. Alors, pour expliquer un petit peu pourquoi la question est si bien de dire comment, eh bien, je dirais par sa présence. Oui, par sa présence, elle est une œuvre d'art. Et pour t'expliquer un petit peu les choses, donc c'est une œuvre qui a été réalisée entre 85 et 1986, donc en pleine période mitterrandienne, et qui prétendait officialiser un peu ce qu'était cette avant-garde qui avait été fondée par le groupe qu'on appelle BMPT, Buren, Mossé, Parmentier, Toroni, et chacun de ces artistes avait décidé de prendre un élément qu'ils allaient répéter toute leur vie créatrice. Buren, c'est très simple, il a décidé de tout créer à l'image de tissus qu'il achetait dans sa jeunesse au marché Saint-Pierre pour faire des stores, qui était un fond blanc sur lequel venaient des bandes noires qui avaient une dimension de 8,7 cm. Si tu regardes les colonnes, elles sont toutes pareilles. Elles ont toutes, dans le marbre cette fois-ci, incrustation de marbre noir de 8,7 cm, tout comme les tableaux de Buren, tout comme les stores que tu vois dans les bâtiments officiels, notamment du ministère de la Culture, etc. C'est le leitmotiv, en fait, hein, le thème récurrent et unique de Buren. Sauf que ça va être décliné à l'infini. En noir, en blanc, en rouge, en vert, en ce que tu veux. Par exemple, à Tokyo, il y a les portiques de Buren qui sont quelque chose de polychrome, comme ça, avec toutes les couleurs, toujours 8,7 cm.
Mais son truc, c'est la rayure de 8,7
cm. Oui, alors voilà, c'est son truc. Disons que c'est truc, oui,
truc, c'est péjoratif,
on va dire.
C'est pas
oui, non, mais non, c'est tout à fait, ça peut être et ça doit l'être. C'est voulu comme ça, comme un truc, effectivement, comme un signe distinctif à partir duquel on va créer. Et là, on crée un ensemble qui est comme un temple. Pourquoi des colonnes? On parlait du Palais Royal. Si on regarde le Palais Royal, eh bien, ce sont des portiques, et pas n'importe quel portique à colonnes. C'est là que s'est joué véritablement l'essentiel de la Révolution. C'est là aussi qui était le lieu du plaisir. C'est là où la moitié de Paris a attrapé la chaude pisse au 18e, etc. Et au 19e, évidemment. C'est un lieu hautement symbolique du cœur de Paris et aussi de l'identité parisienne, l'identité de la France.
Il faut dire que c'était des jardins beaucoup plus touffus,
oui,
et qui allaient jusqu'à la Seine, qui était assez grand.
Exactement. En fait, c'est une installation pérenne, c'est-à-dire qui va durer, monumentale, dans laquelle, et ça c'est très important, on entre sans en voir la totalité. Pour voir la totalité des deux plateaux, eh bien il faut monter. Il faudrait être sur la terrasse du ministère de la Culture, par exemple, ou il faudrait être également dans les cieux, comme ça on les verrait bien. C'est une œuvre dans laquelle, dès que le public la contemple ou la découvre, eh bien il en est partie intégrante. Ah. Il entre. Et on ne peut jamais la saisir en totalité, sauf en s'éloignant de l'œuvre. Et c'est exactement l'un des symptômes, je dirais, de l'art contemporain qui propose une nouvelle relation de l'œuvre d'art dans la société et au regard du spectateur, hein, comme une expérience vitale.
Pascal Torres a écrit Les Secrets de Versailles et aussi Les Secrets du Louvre, édités tous les deux à la librairie Vuibert. Vous savez ce que vous pouvez faire un jour où vous venez à Paris ? C'est d'aller les voir, tout simplement, ces colonnes. Et vous verrez quelle impression elles vous font. En plus, c'est assez sympathique. Il y a toujours des jeunes qui sont assises dessus. Alors, c'est rigolo parce qu'il y en a qui sont basses comme des tabourets et d'autres qui sont assez hautes. C'est sportif, hein, d'aller s'asseoir là-haut. I'm a lazy boy, I'm a lazy boy. Never getting up in time. I enjoy being a lazy boy. Lying in your bed. Thank you. Franz Ferdinand, c'était Lazy Boy.
Les petits bateaux sur France Inter.
Jeudi dernier, c'était la Journée internationale des droits de la femme.
Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 13 ans et j'aimerais savoir pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes en moyenne. Merci, au revoir.
Merci Émilie et merci aussi à tous les autres qui ont également posé cette question. Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l'université Paris-Descartes, qui comme son nom l'indique est à Paris. Donc les femmes qui vivent plus longtemps que les hommes en moyenne, dit Émilie, a-t-elle raison ?
Eh bien Émilie, oui, c'est le cas depuis au moins un à deux siècles, mais probablement depuis beaucoup plus longtemps. Et les raisons pourraient être liées à plusieurs choses. D'abord, le rôle des hormones féminines, par exemple les œstrogènes, qui protègent la circulation et améliorent l'immunité, ce que ne permet pas la testostérone, la principale hormone mâle. Et aussi à la présence d'un double chromosome X, avec le nombre de gènes qu'il comporte chez les filles, alors qu'il n'y en a qu'un chez les garçons. Et puis, plein d'autres facteurs qui sont beaucoup plus complexes encore.
Ça, les hormones, ça fait longtemps qu'on le sait, ça, que les hormones féminines sont plus protectrices que celles des
hommes. Sur le cardiovasculaire, on le sait depuis au moins 25 ans.
Oh,
absolument. Sur l'immunité, ça fait 10-20 ans.
Ouais, c'est récent. Quand même.
C'est assez récent. Mais avant le 18e siècle, on ne sait pas précisément quel était cet écart entre les hommes et les femmes. Probablement par manque d'archives fiables sur des populations suffisamment grandes à l'échelle de pays entiers. Mais on constate aussi cette différence chez nos cousins primates, les chimpanzés et les bonobos, et dans la plupart des espèces de mammifères, et même chez les vertébrés. Il est par ailleurs probable que le risque le plus grand, spécifique aux femmes, ait été lié, dans les siècles précédents, à l'accouchement, et à ces circonstances hémorragiques et infectieuses qui n'étaient pas maîtrisées avant le XXe siècle. Et ceci diminuait énormément l'espérance de vie féminine. L'espérance de vie, c'est la durée de vie attendue pour chaque individu. Mais une étude très récente, en janvier de cette année, a montré qu'entre le 18e et le 20e siècle, justement, dans les conditions les plus difficiles, de famine, de guerre ou d'esclavage, avec des espérances de vie qui pouvaient être de l'ordre de 15 ans, parfois, les filles nouveau-nées survivaient plus longtemps que les garçons nouveau-nés. Et ces résultats suggèrent soit qu'un corps féminin serait, dès le début de sa vie, plus résistant à ces conditions très difficiles, qui était pourtant le lot quotidien de nos ancêtres, soit que les contraintes de la lutte pour la vie pèsent encore plus fortement sur les épaules des garçons, en particulier par les violences mortelles et l'accidentalité mesurée à presque tous les âges. Sans exclure la seconde, on peut penser que la première hypothèse est la bonne. Des filles et des femmes plus résilientes à tout âge, sauf pendant la période de reproduction, et finalement quelles que soient les conditions culturelles. Puisqu'on constate que dans sa grande sagesse, et avant que n'apparaissent les dérives de la sélection des embryons par l'échographie, la nature avait su pourvoir à cela en faisant naître un tout petit peu plus de garçons que de filles. Pour 100 filles, naissaient toujours 102 garçons dans à peu près tous les pays.
C'est incroyable ça.
Étonnamment, déduit de la surmortalité des garçons pendant l'enfance et l'adolescence, les deux sexes arrivaient alors en nombre à peu près égal à 25 ans, l'âge optimal de performance et de reproduction de l'espèce humaine.
Merci docteur Jean-François Toussaint. Jeudi dernier, ce n'était pas seulement la Journée internationale des droits de la femme, c'était aussi la mi-carême. Et traditionnellement, à la mi-carême, on mange des crêpes. Pourquoi ? Alors ça n'a rien à voir avec la religion, les crêpes, ça a à voir avec la durée de conservation des œufs, qui est à peu près de 20 jours. Alors comme ça fait 20 jours qu'on est en carême, si les œufs on les mange pas, ben ils seront perdus. Donc on fait de la pâte à crêpes. Et puis après, donc mi-carême, le carême repart pour 20 jours à nouveau, puisqu'en tout il dure 40 jours. Donc les œufs s'accumulent. Et alors, ça fera les œufs de Pâques.
Bonjour, je m'appelle Lila et j'ai 7 ans et je voudrais savoir à quoi sert la religion. Merci, au revoir.
À quoi sert la religion ? Nous n'avons pas proposé cette question à un religieux, pas un religieux professionnel, entre guillemets en tout cas, mais un philosophe, Charles Pépin. C'est pas évident en 4 minutes.
Non, mais quand même, j'attire votre attention sur le fait que la question, c'est à quoi sert la religion et pas qu'est-ce que Dieu. C'est très
vrai.
Différent. La religion, si on regarde l'histoire, elle sert à créer du lien social. En gros, elle a une fonction
religarée.
Sociale. Voilà, relier. Alors, on ne sait pas trop si ça veut dire relier les hommes entre eux, auquel cas ça fait du lien social, ou alors relier chaque homme à Dieu. Auquel cas on n'aurait pas besoin de religion, il suffit de la prière ou de la foi personnelle, sans le dogme, sans les rites, sans les pratiques.
Et ça fonctionne.
Et puis l'étymologie est contestée, peut-être que ça veut dire pas relier, mais relire, à savoir relire les textes sacrés. Auquel cas on pourrait les relire ensemble, et ça ferait aussi du lien social. Vous remarquez que pour l'instant on ne parle pas de Dieu. Il y a une autre réponse, un peu plus agressive, qui est celle de Freud, qui est de dire que ça sert à soulager la peur, que l'enfant a peur, et donc c'est normal qu'il ait besoin d'être rassuré par son père quand il est petit, mais que quand l'adulte continue à croire en un père géant, notre père, hein, qui le protégerait, eh bien ça le protège, mais ça l'empêche de grandir et d'assumer l'existence avec lucidité. Voilà pourquoi Freud explique que la religion produit de la régression infantile. Et il y a beaucoup de critiques comme ça de la religion, on trouve ça aussi chez Marx, hein. La religion, ça sert à soulager l'opprimé de sa misère en lui promettant une justice éternelle, ce qui fait qu'il ne se battra pas pour sa condition. Alors comment on fait pour échapper comme ça à toutes ces lectures un peu négatives de la fonction de la religion ? Eh bien je crois on parle de Dieu et non pas de la religion. Et on dit que à chacun d'avoir le droit d'avoir une relation libre à Dieu, mais que peut-être cette relation est d'autant plus belle que justement elle est libre et qu'elle n'est pas déterminée par un dogme, par des prétendues vérités générales. C'est ma première proposition. Je crois que c'est très intéressant de se poser la question de Dieu, et c'est peut-être mieux de se la poser hors du champ de la religion. Et puis aussi, autre proposition, c'est peut-être que l'erreur de la religion est qu'elle donne trop de sens. Hein, à quoi ça sert la religion ? À donner un sens à la vie et à donner un sens à la mort. Or, figurez-vous que dans la vie, peut-être, il faut oser se tenir devant ce dont le sens nous échappe. C'est pourquoi on pourrait dire que la religion est dangereuse. La mystique est peut-être plus digne. C'est-à-dire que la religion donne du sens, elle sert à ça. Peut-être qu'on peut être mystique, c'est-à-dire se tenir devant le fait qu'on ne comprend pas le sens des choses, mais accueillir ce mystère. Vous voyez, donc je propose peut-être une idée comme ça de remplacer la religion par la mystique, et donc par la liberté au fond.
Charles Pépin est agrégé de philosophie, diplômé de Sciences Po et d'HEC, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il ne dit pas « du coup », comme tout le monde en ce moment, mais « auquel cas ». Les livres de Charles Pépin, vous pourrez les retrouver sur le site des Petits Bateaux par franceinter.fr. Savez-vous comment on dit quand les poules auront des dents en ukrainien ? Eh bien, ils disent « quand le pou éternuera ». C'est également le titre du dernier livre de Muriel Gilbert, consacré aux expressions populaires dans les différents pays, et c'est édité chez HD.
Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 10 ans, et je voudrais savoir pourquoi certaines villes sont dites en anglais comme New York et d'autres en français comme Londres. Et pourquoi pas London ? Merci de me répondre, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi le nom de certaines villes change selon la langue, comme Rome, Roma ou Londres, London. Et pourquoi d'autres ne changent pas, comme Paris ou New York.
Victor et Clara, bonsoir et bravo pour cette remarque. Ce sont des noms propres, mais vous les traquez aussi, les noms propres Muriel Gilbert, dans votre travail, puisque vous êtes correctrice dans un grand journal. Alors, ces villes qui changent de nom évoquent Victor ou Clara, qui changent ou changent pas d'ailleurs.
Mais ils ont bien raison de s'étonner, en tout cas, Victor et Clara, parce que c'est pas du tout logique, ils ont raison. C'est vraiment pas logique. Mais vous savez quoi, c'est une des raisons qui font que la langue française, elle est compliquée. C'est qu'il y a des règles, mais en fait, il y a des tas d'exceptions aussi. Et puis, non, mais dans toutes les langues, il y a le même problème. Alors, les noms des villes ou des pays étrangers, ben, la logique, c'est qu'ils sont d'abord inventés par les gens qui habitent sur place. Hein. Et puis, quand des gens, par exemple, qui parlent français, découvrent ces lieux, souvent, ils essayent de prononcer comme les gens qui sont sur place. Mais bien souvent, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prononcer ces mots-là. Donc, ils essayent de leur mieux. Et puis, parfois, ils ont vraiment du mal. Et du coup, il en sort un nom qui ressemble plus tellement au nom d'origine. On appelle ça francisé, finalement. Hein. Rapprocher du français un mot pour que ce soit plus facile pour nous à prononcer. Alors, par exemple, en Russie, il y a un mot qui ressemble à peu près... Pardonnez-moi, je ne parle pas le russe, mais ça ressemble à peu près à Moskva. Et ça désigne à la fois une ville et la rivière qui la traverse. Pour eux, c'est le même mot. Et ben, les Français, ils appellent la ville Moscou et la rivière la Moskova. Vous voyez, on s'est débrouillé sans aucune logique. Normalement, les deux devraient s'appeler pareil. Et ben non. Et alors, parfois, on change les noms, comme pour Londres ou Rome ou Barcelone, à la place, comme vous l'avez remarqué, de London ou Roma ou Barcelona. Et encore, là, je vous les prononce à la française, hein. Ça devrait être London, Roma, Barcelona. Et puis, parfois pas, comme dans New York, Madrid ou Tel Aviv. Mais encore, les gens localement les prononcent quand même différents de nous. On les écrit pareil, mais on les prononce différemment. Et alors, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que comme les gens voyagent et échangent de plus en plus, moi, j'ai l'impression, c'est une théorie à moi, hein, que plus ils échangent, plus ils connaissent les autres peuples, et moins ils ressentent le besoin de franciser les noms des lieux. On remarque que Londres et Rome, ça fait partie de l'histoire de la France depuis très très longtemps, et des Français. Et à l'époque, on francisait tout. On francisait les noms des rois qui régnaient dans les autres pays. On avait vraiment besoin de ramener à notre langue les mots qui arrivaient de l'étranger. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et donc, des villes comme New York, Dallas ou San Francisco sont arrivés dans notre vocabulaire bien plus tard. Ils ne faisaient pas partie de la vieille Europe, c'est le nouveau continent. Et du coup, on les a beaucoup moins changés, même si quand même on les prononce à la française. Hein. Quand on dit New York, ouais, c'est pas tout à fait le New York des New Yorkais. Alors il y a un cas particulier où les noms ont beaucoup changé, c'est celui de la Chine. Parce que la Chine, on a adopté un système de notation, de transcription des idéogrammes chinois qui s'appelle le pinyin. Ça date de 1979. Et depuis ce moment-là, là, ça a entraîné une mutation énorme de la façon dont on donne les noms des villes chinoises. Et c'est comme ça que ce qu'on appelait Pékin, aujourd'hui, on l'appelle Beijing. Ça ressemble sans doute beaucoup plus à la façon de prononcer des Chinois, même si sans doute ils ne retrouveraient pas leur petit.
C'est vrai qu'il y a une énorme différence entre Beijing et Pékin.
Ouais.
En revanche, Shanghai reste Shanghai.
Voilà, mais par contre, il y avait aussi Canton, hein, qu'on dit Guangzhou aujourd'hui.
Ah oui, très différent à nouveau.
Exactement. Et donc d'ailleurs, souvent dans le journal, on est obligé encore de noter les deux orthographes ou les deux graphies, Pékin, Beijing, pour que les gens s'y retrouvent.
Quand Muriel Gilbert évoque le journal, il s'agit du journal Le Monde. Alors, on est largement au-dessus des quotas au petit bateau. Quota homme-femme avec Marjorie de Voucoux et Eliane Girard, Anne-Laure Cochet, Noël Bréham. Et si jamais un jour on nous demande de respecter des quotas hommes, eh ben, nous avons notre Jean-Baptiste Audibert. De toute façon, nous nous retrouverons la semaine prochaine à partir de 19h30. Vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr à la page Les Petits Bateaux. Je vous laisse pour l'heure avec Denis Chissou pour la Tulu, mon petit loup.